La santé au cœur des territoires. Une émission en partenariat avec Bouygues Construction sur Radio Immo.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Immo. Aujourd'hui, nous adressons un sujet qui fait particulièrement écho dans le contexte actuel, la santé sur nos territoires. À quoi ressemblera l'hôpital de demain? Un bâtiment de santé plus performant, plus résilient, plus environnemental? Est-ce une utopie finalement? Quelles sont les ressources des acteurs publics et privés pour répondre aux enjeux de bien-être, de santé autour du logement, des territoires, de la ville durable, des quartiers et de l'éducation? Bref, comment remettre du sens dans nos territoires? C'est le sujet de cette table ronde. Pour m'accompagner, quatre intervenants de choix. Mais honneur aux femmes, si vous le voulez bien, messieurs. On commence avec Annabelle Billy. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directrice technique immobilier chez Corian, un groupe qu'on ne présente plus, hein, pour les connaisseurs. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter la situation de Corian Europe et finalement évoquer le marché de manière générale?
Corian, effectivement, donc l'un des leaders de la prise en charge de la personne fragile, donc dans toute l'Europe. Nous sommes implantés dans 7 pays, donc 7 pays européens, Italie, Espagne, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne et dernièrement Royaume-Uni. Grosso modo, nous avons à peu près 1000 établissements, ça représente 1000 établissements sur ces 7 pays, plus de 57 000 collaborateurs et par an environ 520 000 prises en charge de personnes dans notre réseau. Donc en fait, on a une activité qui traite donc de la prise en charge de la fragilité, qui va de l'HAD, du domicile, jusqu'en établissement, établissement de type EHPAD sur les 7 pays dans lesquels nous sommes implantés. Le défi européen, il est le même dans tous les pays d'Europe. Il est sur le vieillissement de la population, puisque à l'horizon 2030, on estime qu'environ 25% de la population aura plus de 65 ans. Et également, sur ces 25%, plus de 2 millions de personnes, et en Italie, par exemple, et en France, seront atteintes d'une maladie neurodégénérative. Voilà. Donc, on a un vrai défi devant nous de prise en charge de cette fragilité.
Justement, les personnes vivent de plus en plus longtemps et on a des personnes âgées qui sont aussi de plus en plus nombreuses. Quels vont être finalement les défis, hein, des établissements pour répondre à ces enjeux?
Eh bien, très concrètement, nous sommes rentrés dans la transition des HIC. Nous avons trois grands défis. Donc nous avons d'abord le défi démographique, avec effectivement donc le défi démographique de la population et du vieillissement de la population, mais également le défi de la population des actifs et donc du coup du personnel soignant, du personnel d'hôtellerie dans tous nos pays. On a un deuxième défi qui est le défi écologique. Que tout le monde connaît, puisque aujourd'hui on doit vraiment drastiquement réduire notre empreinte carbone sur l'ensemble de notre réseau, et nous avons une forte ambition chez Corian de réduction de cette empreinte carbone, donc qui passe également par la transition énergétique. C'est un quatrième hic. Et on a surtout un dernier défi qui est celui de la transition numérique, puisque aujourd'hui, on ne peut plus concevoir nos bâtiments comme on les concevait il y a encore 7-8 ans, sans intégrer le numérique et dans la conception, mais aussi dans l'exploitation de nos bâtiments. Et on verra probablement, j'espère qu'on y reviendra, sur l'aide du numérique dans l'exploitation de nos bâtiments.
On va revenir sur le numérique, sur l'écologie tout à l'heure, effectivement, avec le reste des intervenants. Claude Roland, je me tourne vers vous. Vous êtes directeur du pôle santé de Bouygues Bâtiments France Europe. Finalement, ma question, elle va être simple. Pourquoi un pôle santé chez Bouygues Construction?
Alors, pourquoi un pôle santé chez Bouygues Construction? C'est assez simple. Les hôpitaux et les EHPAD sont des bâtiments avec des process de soins. Pour pouvoir répondre aux questions de nos clients, il faut comprendre comment fonctionne un bâtiment de santé et quelles sont les contraintes auxquelles ils ont à faire face. Pour ça, on a créé un pôle santé avec des experts qui savent leur parler, qui savent les écouter, qui ont le même langage. Et à partir de là, nos experts, une fois qu'ils ont compris les attentes de nos clients, et ils savent les retransmettre à nos équipes spécialisées en bâtiment pour pouvoir faire le meilleur projet. Le pôle santé, c'est aussi capitaliser nos expériences et aussi avoir des managers spécialisés dans le domaine de la santé qui savent diriger des équipes d'architectes et de bureaux d'études spécialisés, puisqu'on est dans un écosystème où l'ensemble des intervenants sont spécialisés dans ce domaine d'activité-là. Et puis grâce à cette expertise-là, on est capable de développer des solutions innovantes pour nos clients.
justement, parmi les solutions, alors je ne sais pas si vous en avez déjà un petit peu dit, mais vous avez une offre groupe dédiée finalement à la santé et au bien-être. Est-ce qu'on pense avoir davantage finalement sur ce segment ?
Oui, alors justement, notre offre New Care qu'on présente aujourd'hui, l'objectif de cette offre, ça a été de présenter à nos clients l'ensemble des activités qu'on avait dans le domaine de la santé, sur les quartiers, sur des bâtiments plus fonctionnels, sur des bâtiments plus innovants. Et parce qu'en fait, nos clients, on s'est rendu compte qu'ils ne connaissaient pas l'étendue de nos activités dans ce domaine-là. Ce que nos clients nous demandent aussi aujourd'hui, comme on est un grand groupe, c'est de pouvoir leur expliquer quelles sont les meilleures solutions qu'on a pu développer en France, en Europe et à l'étranger pour répondre à leurs besoins et pour pouvoir construire leurs projets qui soient les plus innovants possibles. Ça nous permet aussi, cette offre, de rappeler à l'ensemble de nos collaborateurs, puisqu'on est un grand groupe, tout ce qu'on fait sur la santé. Et lorsqu'ils ont des offres, des nouvelles offres à faire, de savoir sur qui s'appuyer dans chaque domaine d'activité, que ça soit sur les quartiers favorables à la santé, que ça soit sur des bâtiments plus flexibles, plus évolutifs, mieux conçus, plus fonctionnels, et puis des bâtiments de santé qui soient plus numériques et plus écologiques aussi.
C'est intéressant. Alors, c'est vrai que pour compléter, les progrès de la médecine et la modernisation des équipements biomédicaux font évoluer les modes de prise en charge et les pratiques de soins. Quelles sont les réponses de New Care pour pallier à ces défis et ces évolutions ?
Oui, c'est évident que les pratiques médicales et l'évolution des technologies qu'on voit depuis plusieurs dizaines d'années sont très très importantes et impactent très fortement l'hôpital. Il y a 20 ans, pour donner un exemple, il y avait 4 chirurgiens dans un bloc opératoire. Il y a 10 ans, on opérait sous imagerie. Et aujourd'hui, les robots sont plus précis que les chirurgiens.
C'est vrai.
Ça nous amène, dans nos projets, année après année, à modifier la taille des pièces qu'on va faire dans les projets, à modifier les flux pour les personnels, modifier les flux pour les patients. Et la crise du Covid a encore amené des nouvelles évolutions très importantes dans les futurs projets qu'on va avoir à concevoir et à réaliser. Avec New Care, par exemple, on présente les solutions qu'on a pu mettre en place pour assurer une flexibilité, une évolutivité dans nos projets, pouvoir transformer des unités d'hébergement en unités de réanimation, pouvoir modifier des bureaux en unités d'imagerie, par exemple. Et on présente une solution qui permet à la structure de faire toutes ces évolutions-là, sans oublier tous les impacts techniques, notamment sur les flux, sur les traitements de l'air, qui vont servir à faire fonctionner le bâtiment derrière. Pour les EHPAD, on n'a pas oublié les EHPAD, on a aussi développé des solutions qui nous permettent, puisque les EHPAD sont souvent placés en centre-ville, d'avoir des EHPAD qu'on pourrait transformer dans 20 ou 30 ans en habitat, une fois que le papy-boom sera passé et une fois qu'on aura peut-être un jour trouvé une solution à la maladie d'Alzheimer.
Alors finalement, effectivement, on voit que ça répond aux enjeux d'aujourd'hui, mais on voit aussi que ça anticipe celle de demain. Mais on y reviendra aussi tout à l'heure. Stéphane Moreau, vous êtes directeur chez Bouygues Bâtiments Nord-Est et vous venez de livrer en juillet un hôpital à Sambre-Avesnois à Maubeuge. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet ?
Oui, tout à fait. Alors pour le groupe, c'est une expérience, une nouvelle expérience pour le groupe. Alors je rebondis sur ce que disait Claude. On a mis à profit toute la capitalisation qu'on a acquise dans le groupe sur ces projets hospitaliers. Donc l'hôpital de Maubeuge, c'est une opération que le groupe a traitée en conception-réalisation il y a 4 ans maintenant. 3 ans de travaux, donc qui a été livré en juillet. Les premiers patients sont arrivés la semaine dernière et tout le déménagement se passe à merveille. Donc c'est une opération, alors quelques chiffres, 245 lits, 33 000 m² de SDO, construit sur 4 niveaux. C'est un bâtiment complètement autonome dans son fonctionnement. Donc quand je dis autonome, c'est que on retrouve tous les services de santé que l'on peut trouver dans un centre hospitalier, mais également tous les services techniques, que ce soit une ST, une pharmacie, un labo, une cuisine centrale, plus tous les plateaux techniques qui permettent à ce bâtiment de fonctionner en toute autonomie.
C'est un produit complet, 360.
Voilà, exactement.
C'est un établissement qui illustre parfaitement, finalement, le sujet de la résilience, au sens large. Quels étaient les enjeux, concrètement, autour de ce projet, pour vous, les défis ?
Alors, le premier défi était d'abord de répondre aux attentes de notre client. Sinon, je dirais qu'il y avait 4 défis principaux. Là, le premier défi, c'était de concevoir un bâtiment compact, qui permettent donc d'avoir une contiguïté des services et de minimiser les déplacements du personnel entre services. Ça, c'était le premier enjeu, puisque c'est un projet en conception-réalisation. Le deuxième était de concevoir un bâtiment flexible qui permette d'intégrer, enfin de le faire évoluer tout au long de sa vie. Donc on, aussi bien au cours des études que du chantier, mais aussi en termes d'exploitation dans le futur. C'est un bâtiment résolument moderne qui utilise des matériaux modernes aussi bien en façade, très lumineux. Il y a 6 patios qui permettent de ramener de la lumière naturelle au sein du bâtiment, donc bâtiment très très moderne. Et puis dernier point, bâtiment basse consommation, puisqu'on est allé au-delà des exigences réglementaires en termes d'énergie sur ce bâtiment.
Justement, l'aspect écologique dont on parlait tout à l'heure en introduction. Alors, Julien Schmid, donc, vous aviez piloté l'élaboration de cette offre santé hein, en qualité de directeur du marketing stratégique. Il y a un lien fort entre santé, bâtiment et urbanisme. Finalement, en quoi la conception de territoire peut finalement avoir un impact sur la santé et le bien-être des citoyens ?
Bonjour. Alors, ce lien, déjà, il a été créé dès 1946, par l'OMS, qui a défini la santé non pas comme une absence de maladie ou d'infirmité, mais bien comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Et c'est là qu'on voit ce lien et l'impact que peuvent avoir l'urbanisme et l'aménagement du territoire pour favoriser ce bien-être social dans la programmation des projets, en favorisant le bien vivre ensemble, la mixité sociale, la mixité intergénérationnelle, le lien social entre les gens, dans la conception des projets. Pour là, l'aspect plutôt bien-être mental, en donnant accès à la nature en ville, puisqu'on sait, les études l'ont montré, que l'accès à la nature favorise le bien-être mental des gens, en donnant accès à davantage de lumière naturelle et d'espace. Et puis évidemment, bien sûr, physique. Et là, c'est au travers des usages auxquels les projets vont pouvoir contribuer, en favorisant la marche, les activités physiques, en travaillant sur la qualité de l'air intérieur des bâtiments, la qualité de l'air extérieur, etc.
Alors, vos projets bâtimentaires et urbains participent à l'amélioration et à la gradation du parcours de soins, mais comment concrètement sur le terrain ça se traduit ?
Alors, le système de santé français s'est construit autour de deux grands piliers que sont la médecine de ville, donc le médecin de famille quelque part pour soigner les petits maux du quotidien d'un côté, et de l'autre côté, l'hôpital pour ce qui est plus grave et plus important. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec le vieillissement de la population, avec nos nouvelles habitudes de vie, on a une explosion des affections de longue durée, ce qu'on appelle les ALD, qui touchent aujourd'hui quasiment un Français sur trois, et qui nécessite de revoir ce modèle et d'apporter une plus grande gradation, effectivement, dans le parcours de soins des patients, entre ces deux extrêmes que sont la médecine de ville et l'hôpital. Et donc pour ça, au travers notamment de notre filiale Link City, qui est notre filiale de développement immobilier, on est en capacité de proposer aux acteurs locaux, aux collectivités locales, un certain nombre de produits qui vont favoriser cette gradation. Donc ça commence par les maisons de santé. Donc on a développé un concept assez innovant de maisons de santé pluridisciplinaires qui va favoriser, entre autres, la prévention. Ça passe aussi par la télémédecine qu'on peut intégrer dans un certain nombre de nos projets de bureaux, de maisons de santé aussi, etc. Par le maintien à domicile, le fait de pouvoir permettre aux gens de rester plus longtemps dans leur logement. Et il y a de ça maintenant déjà 3 ans, on a développé une offre qui s'appelle Wisdom for Life, qui permet d'avoir un logement évolutif et qui va permettre aux gens de rester plus longtemps dans leur logement sans devoir déménager ou aller dans un établissement spécialisé. L'accompagnement à la perte d'autonomie au travers des EHPAD et des résidences services seniors qu'on peut proposer là aussi aux collectivités. Et puis enfin, je terminerai sur l'ambulatoire. Et qui dit ambulatoire dit aussi hôtel hospitalier. Donc on a un premier projet à Amiens d'hôtel hospitalier qui permet aux gens d'avoir un hébergement ponctuel lorsqu'ils doivent se rendre à l'hôpital pour une intervention.
Alors, je rebondis un petit peu sur cette notion d'atelier de santé. Vous organisez des ateliers de santé participatifs. En quoi, finalement, ces rencontres, qu'apportent-elles en termes de santé et de bien-être concrètement ? Et est-ce que vous avez des exemples précis pour nous ?
Alors là, vous touchez presque la raison d'être, ou en tout cas le cœur de notre approche de la fabrique urbaine et au travers ça de la santé, qui est le fait d'intégrer, de faire participer, d'engager les futurs utilisateurs ou les citoyens dans les projets qu'on développe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place qui s'appelle CityPlay. On a défini 13 dispositifs qui vont permettre de prendre en compte les usagers et de, là encore, les engager dans les projets pour toujours mieux répondre aux besoins réels des utilisateurs. Je vous citerai deux exemples. On a travaillé à Lyon et à Grenoble avec des acteurs de l'immobilier, mais aussi de la santé, pour bien identifier quels étaient les besoins locaux et les enjeux locaux de santé pour être plus pertinent dans nos réponses sur les futurs projets sur ces territoires-là. Et un deuxième exemple qui nous vient d'Angleterre, où notre filiale Bouygues UK mène une démarche qui s'appelle « Un jour dans la vie d'eux » et D'accord. où des collaborateurs de l'entreprise vont passer une journée auprès d'utilisateurs des lieux de santé qu'on va construire pour bien comprendre quel est leur quotidien et donc être meilleur dans la réponse qu'on va pouvoir leur apporter.
Annabelle Bidis, si on revient un petit peu aux établissements, est-ce qu'aujourd'hui le confort des soignants et des patients est considéré de la même manière et quels seraient les axes d'amélioration sur ce sujet ?
Pour ce qui nous concerne, nous on a un plan d'investissement à l'horizon 2025 de plus d'un milliard d'euros sur nos 7 pays. Donc autant vous dire qu'on réfléchit quand même et on fait plus que réfléchir maintenant où qu'on soit nos établissements pour améliorer, bien sûr, enfin pour renforcer la qualité de vie et de nos résidents patients, puisqu'on a également des cliniques, hein, mais également, bien sûr, de notre personnel. Ça va passer essentiellement par le numérique, hein. Pas que, bien sûr. Là aussi, dans la conception architecturale, on s'astreint à ce que les circulations soient le moins longues possible pour le personnel, pour réduire aussi donc la pénibilité au travail, pour apporter énormément de lumière de jour. C'est l'intérêt d'un groupe, c'est qu'en fait, depuis quelques années, on s'est aperçu que les législations, les réglementations n'étaient pas les mêmes et qu'en Belgique, par exemple, on avait un pourcentage, on devait un minimum de lumière naturelle qui était bien supérieur à celui que l'on avait en France. Donc on a adopté. Ouais. Pour toutes nos nouvelles constructions, on a adopté ce standard, que l'on soit en France, en Belgique ou ailleurs. Ça, c'est à la fois pour l'ensemble des usagers. Et puis, au travers du numérique, des nouvelles technologies, notamment par la mise en place de détecteurs de chute. Et donc là, on est à la fois dans la sécurité du résident, mais aussi l'aide. Au niveau du personnel, sur la qualité de l'air. Vous en parliez, Julien. Donc, on équipe maintenant l'ensemble de nos établissements en capteurs de CO2, de température, etc. Voilà. On essaie sur des serrures connectées, enfin sur tout ce type de matériel qui permet effectivement de faciliter et la vie du résident, du patient, mais aussi la vie de notre personnel.
Plus de préventif et moins de curatif.
Là, en ce qui concerne le curatif, vous êtes au cœur de notre raison d'être, puisque on est quand même l'un des premiers groupes à utiliser les techniques non médicamenteuses, ce qui nous permet effectivement vis-à-vis des résidents donc atteints de maladies neurodégénératives de ne pas être trop soumis à de la prise médicamenteuse, mais justement donc à combattre par des techniques non médicamenteuses, oui.
Claude Roland, alors vous entendez finalement le discours d'Annabelle aujourd'hui et ceux de vos camarades. Des établissements pensés comme des lieux de vie, ça paraît totalement utopique. Mais j'imagine que vous allez avoir un autre discours, n'est-ce pas?
Oui, mais c'est sûr que c'est pas utopique et c'est plus que nécessaire. Alors que ça vient d'être dit, on doit avoir des établissements qui sont pour les patients ou pour les résidents plus accueillants et aussi pour les personnels avec le besoin d'attractivité que les établissements ont vis-à-vis de leur personnel, leur offrir des conditions de travail qui soient plus que satisfaisantes. Depuis quelques mois, on a aussi utilisé les nouvelles techniques et de conception grâce aux outils numériques et de construction pour changer nos méthodes de travail, faire en sorte que tout ce qui se voit pas et qui est de la pure technique soit plus industrialisé, plus standardisé, et pour passer plus de temps avec nos architectes sur une meilleure conception des bâtiments qu'on va livrer, que ça soit des hôpitaux ou des EHPAD. On se rappelle tous des hôpitaux qu'on a livrés il y a quelques années et encore récemment, avec des grands halls d'accueil qui sont somptueux, avec des très beaux matériaux. Et puis dans ces halls d'accueil, bah, il n'y a pas un seul mobilier pour s'asseoir, pour les patients qui viennent, qui sont souvent âgés, handicapés. Et aujourd'hui, on a très très peu d'espace ou de mobilier pour pouvoir brancher son téléphone portable, alors qu'on voit plein d'espaces publics, comme des gares, où on a pris en compte ces aspects-là. Il y a aussi beaucoup d'aidants familiaux qui accompagnent ces personnes qui sont en affection de longue durée, donc qui sont très souvent à l'hôpital, et à qui on n'offre pas des lieux d'attente dignes de ce nom. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'utiliser la technicité qu'on a à disposition pour pouvoir standardiser plus et industrialiser plus ce qui est de la technique pure et passer plus de temps sur ces sujets-là. Pour le personnel, c'est aussi très très important, et nos équipes santé veillent sur les projets qu'on fait, pour donner un exemple, à ce que les salles de détente des personnels soient toujours dotées de lumière naturelle et de beaucoup de lumière naturelle, dans la mesure des possibilités, qu'elles soient toujours un espace extérieur à disposition directement et qu'elles soient bien décorées, parce que c'est des choses que il y a encore quelques années on oubliait complètement.
Annabelle Bailly a évoqué donc l'aspect numérique et connecté. En quoi finalement cette connectivité aujourd'hui est une plus-value significative pour les soignants mais aussi pour les patients?
Alors c'est une plus-value, oui, c'est une plus-value nécessaire, et c'est surtout des techniques qui existent et qui sont utilisées dans d'autres domaines d'activité, que ce soit le bureau, l'habitat, etc. Et donc on s'est posé la question depuis quelques années, comment adapter ces techniques. Alors on a commencé par essayer de mettre en place de la domotique dans des chambres d'hôpital, dans certains services. On s'est rendu compte que c'était pas la bonne approche, fallait pas commencer par la technique, fallait commencer par les usages. Et donc pour ça, on a réuni des cadres de santé, des soignants, et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Ils nous ont défini un certain nombre de cas d'usage, et après avoir défini ces cas d'usage, on a passé 2 ans. Ça nous a demandé 2 ans, parce que c'était pas si simple que ça. Certains cas d'usage étaient assez simples et d'autres moins. À aller chercher des entreprises, entreprises partenaires, qui avaient des solutions technologiques qui permettaient de répondre à ces usages. On a trouvé des start-up, on a trouvé des grandes entreprises, et aujourd'hui, on a une solution qui permet d'y répondre. Pour aller plus loin, après, notre métier, c'est pas obligatoirement de mettre en place ces capteurs-là ou ces technologies qui seront mises en place dans des bâtiments qu'on livrera dans 3, 4, 5 ans, le temps de la conception et de la construction. Mais c'est surtout de mettre en place les réseaux qui vont permettre de faire fonctionner ces technologies-là. Et on prend dès aujourd'hui en compte ces technologies pour mettre en place les bons réseaux. Et pour finir sur ce point-là, je dirais que à un moment donné, quand on a parlé à nos clients et à nos partenaires, ils se sont dit « oui, mais est-ce que vous êtes sûr que ça marche ?» Et donc, on a décidé dans le groupe de mettre en place un showroom dans les prochains mois qui va, avec nos partenaires qui ont ces technologies-là, pouvoir démontrer à nos clients, à nos partenaires, qu'on a les solutions adaptées à leurs besoins et que ça marche.
Et in fine, on sait que ça va avoir un impact sur la qualité, inévitablement, des soins.
Bien sûr.
Pour tout le monde. Le Canada est précurseur en la matière et votre filiale Plan Group sur place a porté le projet Contolucci Vaughan Hospital, un des hôpitaux les plus connectés d'Amérique du Nord. Pouvez-vous nous en dire plus en quelques mots? Et quelles bonnes pratiques pouvons-nous retenir?
Oui. Oui, c'est un des hôpitaux les plus connectés d'Amérique du Nord. C'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait. J'ai été visiter bien sûr cet hôpital avec mes collègues de Plan Group. On a beaucoup échangé avec eux et puis avec nos équipes françaises. On s'est rendu compte que globalement tous les cas d'usage qu'ils déployaient et toutes les technologies qu'ils déployaient, on était en train de les déployer en France. À l'exception près d'un sujet qui est l'interconnexion des systèmes d'information qui permet de définir des processus et d'optimiser des processus de fonctionnement des équipes médicales et qui aide les soignants et qui aide aussi à la réponse qu'on peut apporter aux patients. Pourquoi on ne développe pas ça en France? C'est parce qu'aujourd'hui, ça ne nous est pas demandé dans les appels d'offres français, mais en préparation du moment où ça va nous être demandé, on est en train de le préparer avec des partenaires français. Et c'est la force d'un grand groupe de pouvoir voir ce qui est fait dans d'autres pays, de pouvoir échanger entre collègues, de pouvoir voir les similarités et les différences, et de pouvoir préparer la France à répondre à ce qui a été demandé au Canada il y a quelques années, et pouvoir avoir une des premières réponses qu'on pourra apporter à nos clients français dans les prochains mois.
Un exemple de bonne pratique qu'on pourrait retenir justement du Canada?
Oui.
Un exemple, si vous avez un exemple concret qu'on pourrait justement...
Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont une tour de contrôle à l'intérieur d'hôpital qui optimise le fonctionnement de l'hôpital en continu. Donc toutes les salles, on sait l'occupation des salles, donc combien de temps elle va être utilisée, pendant combien de temps elle va être utilisée, et ça permet d'augmenter l'activité de l'hôpital. Depuis 5 ans qu'il est ouvert, ils rajoutent 1 million d'euros de technologie de l'information par an et ils augmentent de 5 millions d'euros leur activité sans augmenter la charge de travail de leur personnel. Ah oui. Et ça, c'est vraiment très utile pour les personnels et très utile aussi pour les soignants parce que c'est une offre supplémentaire qui est offerte aux patients, quoi.
Merci. Alors Stéphane Moreau, alors justement en termes de connectivité, on parlait tout à l'heure de l'hôpital Sambre-Avesnois qui était pour le coup, hein, vous allez nous l'annoncer, mais 100% fibré. J'imagine que c'est une première en France et quels sont les bénéfices directs pour les Français, les patients et une fois de plus les soignants également?
Effectivement, à la taille d'un projet de 33 000 m², effectivement c'est le plus gros hôpital 100% fibre connecté en France. 100% FTTO, c'est Fiber to the Office, hein, c'est-à-dire que 100% des points informatiques sont câblés en fibre. Le client, notre client, notre maître d'ouvrage a été assez précurseur sur ce projet puisqu'effectivement, il a bien senti qu'il y avait une demande forte dès 2015 quand il a élaboré son cahier des charges. Et le groupe a su répondre à cette demande et proposer une technologie pour répondre à cette attente. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est deux cœurs de réseau qui sont pratiquement des mini data centers au cœur même de l'établissement, avec 600 microsuites qui représentent près de 8000 ports informatiques. Donc sur ce système, on peut connecter l'intégralité des équipements aussi bien techniques que médicales sur le système. Alors qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte beaucoup plus de débit, forcément, parce que aujourd'hui les données en termes de vidéo, en termes d'imagerie, en termes de biomètres, on en parlait tout à l'heure, sont de plus en plus grandissantes. Donc ça permet effectivement d'avoir un débit bien supérieur directement au poste de travail. Et puis c'est une technologie, il faut le savoir aussi, qui est moins consommatrice en énergie. Donc ça permet de faire des économies d'énergie sur ce système.
Justement, la transition est toute faite. On va parler justement un peu d'environnement avec vous, Julien Schmitt, puisque des bâtiments modernes, confortables, oui, tout le monde dit oui. Aujourd'hui, on parle aussi de sobriété environnementale. Quelles sont les solutions apportées par Bouygues Construction pour réduire l'empreinte carbone de ces clients?
Alors, en début d'année, on a annoncé justement notre plan stratégique climat qui vise d'ici 2030 à réduire de 30% nos émissions de carbone, ce qui est une marche extrêmement importante. Et qui dit stratégie climat dit plan d'action. Dans ce plan d'action, la première chose, c'est de travailler sur la conception des projets et d'optimiser cette conception pour utiliser le moins de matières et de matériaux possibles. Et là, on a travaillé et on continue de travailler avec Dassault sur un configurateur de chambre EHPAD qui permettra d'optimiser cette conception, je pense. Ensuite, il y a le choix des matériaux. On travaille beaucoup en R&D, on investit beaucoup pour développer des bétons bas carbone, puisqu'on ne pourra pas systématiquement se passer du béton. Mais à côté de ça, on a un pôle d'expertise bois qui s'appelle WeWood, et on s'est fixé aussi un objectif de 30% de chantiers en bois d'ici 2030. Et on va avoir une première référence à Villefranche-sur-Saône avec le premier hôpital en construction modulaire bois qu'on va réaliser prochainement. Même si sur d'autres produits, on a de nombreuses références de chantier bois. Ça passe par les circuits courts. On ne le sait pas assez, mais 80% de nos sous-traitants sont à moins de 50 km des chantiers. Donc on travaille vraiment avec des acteurs très locaux sur l'ensemble de nos opérations. Ça passe par l'économie circulaire. Et puis enfin par l'énergie, donc par la réduction des besoins d'énergie, donc sur la performance énergétique des bâtiments, sur l'intégration des énergies renouvelables, et puis sur leur gestion intelligente. Ce qui rejoint le sujet de l'hôpital connecté dont on parlait tout à l'heure. Oui.
Est-ce aisé aujourd'hui de répondre aux enjeux démographiques, écologiques et technologiques en même temps?
Évidemment non. Sinon, on ne serait pas tous là pour en parler. Mais il faut reconnaître que le monde de l'immobilier, du BTP, est aujourd'hui face à un croisement d'enjeux de plus en plus nombreux et de plus en plus importants, qui nous oblige à véritablement nous mobiliser et à travailler ensemble, tous acteurs confondus, entreprises bien évidemment, maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études, fournisseurs, etc. On est quelque part, je ferai le parallèle, mais on est un peu en première ligne sur ces sujets-là, l'industrie du BTP est quand même fortement émettrice en CO2, un impact très fort sur la vie sociale des gens. Mais en même temps, c'est un moment formidable. On est une industrie qui a une réputation d'être assez conservatrice, et là, on doit complètement se réinventer. Et donc, c'est passionnant.
Ben oui, je n'en doute pas. Claude Roland, pour conclure cette table ronde, comment vous pourriez résumer en une phrase l'objectif de Newcare ?
Alors, notre offre, elle montre qu'on s'attache à comprendre les attentes de nos clients et des utilisateurs pour leur offrir un cadre de vie sain et à offrir aux professionnels de santé des bâtiments de santé performants. Nos clients sont des experts du soin et en ayant des équipes qui sont spécialisées dans ce domaine d'activité-là, et en comprenant leurs attentes, on arrive à leur offrir des conditions de travail qui sont meilleures. Et c'est pour ça que quand on a fait Newcare, on s'est posé la question avec Julien et avec toutes les équipes de quel était notre slogan. Et notre slogan, c'est « vous aider à nous soigner ».
Ah bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour vos interventions respectives et pour les initiatives aussi que vous mettez en place en faveur des citoyens, de l'environnement et du bâtiment. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Radio Immo.
La santé au cœur des territoires. Une émission en partenariat avec Bouygues Construction sur Radio Immo.